because I love music. It's in my head. I can't get it out.
Here we go with Miles Davis and the quintet from Birdland with...
Hey, George, I might leave out number letter F, you know? I might leave out all this part.
The controversial Miles Davis. We call him controversial because some people like him, some people don't.
Intégral Miles Davis. Alors, on avait, si je puis dire, à un moment donné, Miles Davis, lorsqu'il venait de quitter Charlie Parker à la fin de 1948, ça s'était passé donc le 23 décembre, eh bien, le quintet se dissout. Puisque plus rien ne va, Miles ne supporte plus un peu cette espèce de mise en retrait que lui impose Charlie Parker. Et donc, il va décider de quitter, carrément. Et il va donc, à ce moment-là, rejoindre l'orchestre d'Oscar Pettiford, qui joue aussi avec le tromboniste Kay Winding. Et ils vont tous ensemble participer à l'ouverture d'un nouveau club de jazz, The Click, à Broadway. Alors, deux semaines après avoir quitté Parker... Eh bien, Miles va retrouver cette fois-ci de nouveau Charlie Parker dans des conditions assez particulières, faut-il le dire, parce qu'en fait, celui-ci est imposé parce qu'il a acquis une certaine notoriété. En effet, le magazine Metronome, célèbre magazine de musique et de jazz de l'époque, eh bien, comme le fera Don Beat après par la suite, décerner pratiquement chaque année un classement des meilleurs musiciens. Et pour la partie trompette, ce sera donc Miles Davis. Évidemment, pour le sax, c'est Charlie Parker, raison pour laquelle eh bien, ils vont donc se retrouver, cette fois-ci, avec d'autres musiciens dont je vous donnerai les noms plus tard, et petite modification dans la programmation. Jusqu'à présent, j'ai évité de vous rediffuser, vous savez, ce qu'on pourrait appeler les scories des studios d'enregistrement, à savoir que, d'une part, où les musiciens se chauffent, ou bien il y a des faux départs, ou bien parce que quelqu'un a fait du bruit, on doit recommencer, et par conséquent, c'est des morceaux qui durent entre 30, 1 minute, 1 minute 20. Donc j'ai trouvé ça inintéressant, consacrant plutôt l'émission à diffuser uniquement ce qui sera donc effectivement classé comme meilleur morceau et figurant donc sur le, à l'époque, 78 tours ou sur le vinyle. Eh bien, on va faire une petite dérogation parce que pour le Metronome All-Star, eh bien, il n'y a pas, certes, de scories, mais malgré tout, le magazine a décidé de faire deux types d'enregistrements, ou trois parfois, pour certains morceaux, parce qu'on est encore à l'époque où les morceaux sont limités parfois à 3 minutes, et ça ne convient pas à ce que veut faire Metronome. Par conséquent, on va avoir droit à différentes prestations. Certaines sont pratiquement identiques, d'autres, nous le verrons, sont totalement différentes. On va commencer donc par le... Metronome All-Star du 3 janvier 1949 avec le thème Overtime avec deux versions différentes. We'll be right back. Overtime, donc, par le métronome All-Star. On a donné ce titre, Overtime, tout simplement parce que ça va peut-être vous paraître bizarre. Ainsi, Charlie Parker, oui, n'arrive pas à mémoriser les arrangements. Ce qui fait que la séance devait durer 2h30. Compte tenu des prises qu'on a dû faire et refaire à cause de Charlie Parker, eh bien, on va dépasser le temps prévu et dépasser donc les 3 heures d'enregistrement. Comme quoi, même les plus grands ont parfois quelques petits soucis pour pouvoir s'intégrer dans un groupe aussi conséquent, avec des musiciens qui pratiquement n'ont jamais joué tous ensemble. Certes, ils n'ont pas besoin de répéter, parce que lorsque je vais vous donner le nom des participants, c'est à se faire dresser les cheveux sur la tête, parce que c'est que des leaders de groupe. Il y aura donc pour la partie trompette Miles Davis, Dizzy Gillespie, Fats Navarro, déjà. Pour la partie trombone, Gigi Johnson et Kay Winding. Buddy DeFranco sera à la clarinette, Charlie Parker sera donc à l'alto, Charlie Ventura sera au ténor, Ernie Caceres au baryton, Lenny Tristiano tiendra le piano, Billy Bauer sera à la guitare, Eddie Safransky à la basse et Shelly Main à la batterie. Donc des musiciens venus d'univers différents qui, malgré leur différence de jeu et plus habitués à jouer dans des orchestres, on va dire des combos beaucoup plus petits, eh bien arrivent à faire une musique vraiment de très très grande qualité. C'était donc le métronome All-Star. On va donc enregistrer un deuxième thème. Il aura pour titre Victory Ball. Et tout autant dans le morceau qu'on avait écouté précédemment, donc Overtime, les trompettistes jouaient si peu différemment qu'on ne peut savoir vraiment qui était le soliste parce que c'était trop difficile. Alors pour la partie donc de ce Victory Ball, on va également écouter deux prises. Alors il y aura donc deux prises avec, vous le constaterez, des soli de trompette tout à fait différents. L'un sera dû à Fats Navarro, l'autre sera dû à Miles Davis, mais Miles, on le reconnaît parce qu'encore une fois, eh bien, il va avoir recours à la trompette wah-wah, donc avec une sourdine. Deux versions donc de Victory Ball, je rappelle, du 3 janvier 1949. Thank you. Par le Metronome All-Star, donc le 3 janvier 1949, c'était donc Victory Ball avec deux versions tout à fait différentes. Alors, l'orchestre va bénéficier d'une retransmission radio, mais allez donc savoir pourquoi, on ne va conserver qu'un seul titre. Ça sera daté donc du 17 janvier, et le titre c'est une compo donc de Tad Damron, The Squirrel.
Music lovers, and welcome once again to another WPIX jazz concert. We're kind of happy to have you with us tonight because we're observing two very, very conspicuous firsts. Our first readings of bebop, and a little while later during the program itself, two awards made by Metronome Magazine. Our guest this evening, lovely Carol Bruce from the very successful musical Along Fifth Avenue. And the gentleman to her right is Mr. George Simon, the editor of Metronome Magazine. More about them in just a moment, but right now I'd like to bring to your attention some of our personnel. There's Miles Davis on trumpet over there, and Lucky Thompson on sax. Buddy DeFranco will be playing the clarinet this evening. Kay Winding on trombone, and Oscar Pettiford himself up there on the bass. Rattling the skins is Shelly Mann. And the fellow with the built-in hairdo is Al Haig on piano. And they're doing things to a little item called The Squirrel, I'll have you know.
retransmission radio The Square Rail, composition de Tad Dameron. Alors, comme je vous ai indiqué, le présentateur précise donc c'est le métronome All-Star. Pas du tout, en fait, parce que on ne sait si on doit attribuer la paternité du groupe à Oscar Pettiford ou Miles Davis. Et par conséquent, ne sachant comment présenter les musiciens, eh bien, on a donc décidé qu'on allait rappeler un peu le métronome All-Star, mais pas du tout. En fait, les musiciens bien sont présents, d'autres ne sont plus là, tels notamment, évidemment, Dizzy Gillespie, qui est reparti faire une tournée de son côté. Et puis, il y aura donc pas mal de remplaçants. Gigi Johnson ne sera plus non plus dans le groupe. Le groupe sera donc en fait en octet. On va donc l'attribuer parfois à Miles Davis octet, sauf que parfois, eh bien, Miles Davis ne joue pas. Ce qui fait qu'on ne sait trop exactement qui est le leader du groupe. Toujours est-il qu'il est composé pour la presque totalité des morceaux de Miles, donc, Kay Whiting. Au trombone, il y aura donc Buddy DeFranco qui va lui être à la clarinette aussi. Et puis Lucky Thompson est venu remplacer donc Charlie Parker, mais Lucky Thompson c'est un sax ténor. Il y aura donc Charlie Ventura qui alternera donc au ténor ou au baryton. Pour la partie piano, on a remplacé donc Lenny Tristano par Al Haig. Oscar Pettiford sera à la basse et Shelly Mayne à la batterie. On va donc faire en sorte de pouvoir poursuivre avec ce groupe-là, avec notamment un thème qui lui est vraiment bebop. Il aura donc pour sous-titre Anthropologie, mais il sera présenté comme bebop.
Very charming Miles guy over there, Miles Davis, with a tune called Anthropology. This is bebop. Thank you.
Anthropologie ou bebop, menée de main de maître, on va dire, par Miles Davis, puisqu'on va attribuer malgré tout un peu le titre à Miles Davis. Alors, c'est un album qui est paru évidemment sous un label plus que confidentiel, pirate. L'album, il est paru sur le label Royal Jazz, un label allemand, et il a pour titre Miles Davis, non-net, 1948, janvier 1949. Celui-ci est pratiquement impossible à trouver aujourd'hui. Par contre, le précédent, le Metronome All-Star, si vous souhaitez l'obtenir, ne le cherchez pas sous le nom de Miles Davis. Vous le trouverez sous la référence plutôt de ce qu'on appellera donc The Complete RCA Victor Recording, paru donc chez RCA. Donc c'est sous le nom de Dizzy Gillespie et non pas sur celui de Miles Davis ni de Metronome All-Star. Évidemment, je vous indiquais que certains morceaux seront donc sans Miles Davis. On va voir ici la preuve avec le thème Fine and Dandy, pratiquement joué en solo par le pianiste Al Egg. Fine and Dandy, donc par pratiquement en solo, on va le dire. Effectivement, donc le pianiste Al Egg. Alors, Miles se trouve qu'Al Egg, eh bien, il joue un peu trop stride, un peu trop swing. Par conséquent, il est un peu boudeur, donc il va se mettre un peu en retrait. C'est la raison pour laquelle, sur le morceau suivant, il ne va pas non plus. Il a décidé qu'il n'allait pas jouer. Et donc, par conséquent, on va se passer de Miles, et d'autres musiciens d'ailleurs, mais notamment de lui. Et ce sera donc Lucky Thompson qui va avoir la part belle pour ce morceau. Pour ce titre, évidemment, un des classiques du jazz, Body and Soul, dont on pourrait rappeler malgré tout qu'il a été immortalisé et magnifié par Herman Hawkins. Ici donc, ce sera avec Lucky Thompson. Thank you. Body and Soul, donc par Lucky Thompson, au sein du Miles Davis Octet, même si Miles ne joue pas, il était quand même présent sur la scène ce jour-là, et il se rend compte quand même que s'il veut être le leader et pouvoir toucher les royalties, il faut peut-être quand même qu'il se décide à aller jouer. C'est la raison pour laquelle il va reprendre en main un peu l'octet, dont je rappelle la compo, donc Miles trompette, Kay Winding trombone, cette fois-ci Buddy DeFranco clarinette, Lucky Thompson au ténor, Charlie Ventura au baryton, Al Haig piano, Oscar Pettisord à la basse et Chelly Main à la batterie. Pour le thème qui va clôturer la séance, ce sera donc How High the Moon.
Wonderful, kid. Wonderful. How High the Moon. Shelley, ready?
Et voilà cette séance donc du 17 janvier 1949 avec, disons-le, le Miles Davis Octet. Alors, il va se produire après un événement, deux jours après, tout simplement. Eh bien, Miles va retourner en studio cette fois-ci avec son propre groupe, donc le Miles Davis Nonet, et ce sera son premier enregistrement pour le label Capitol. Alors, comme vous le savez sans doute, eh bien, Capitol va être la firme qui va donc enregistrer le célèbre album Birth of the Cool, et les morceaux qu'on va entendre en feront partie, mais ils ne seront édités que 2 ans plus tard, parce qu'à l'époque, eh bien, on considérait que cette musique était totalement nouvelle et que pour l'instant, eh bien, on avait donc décidé chez Capitol de ne pas sortir l'album immédiatement. Alors, Miles est un peu frustré malgré tout, mais il va se prêter de bonne grâce à l'enregistrement parce qu'il a besoin d'argent. Donc, ce sera daté du 21 janvier 1949. Le groupe, cette fois-ci, sera composé de Miles Davis à la trompette, Kay Winding sera au trombone. Il y aura donc Junior Collins, donc on sent la patte quand même de Gil Evans, qui sera au corps. Il y aura Bill Barber au tuba, Lee Konitz sera à l'alto, Jerry Mulligan sera au baryton, Al Egg sera au piano, Joe Shulman, le bassiste donc de l'orchestre de Claude Turnill, sera à la basse, Max Roach sera à la batterie. Et petit phénomène assez bizarre, c'est que cette fois-ci, l'arrangeur, même s'il n'est pas présent, ce sera dû à la plume donc du pianiste John Lewis, parce que eh bien, lui il a décidé d'aller voler de ses propres ailes aussi. Il est remplacé par Al Egg. Et John Lewis, eh bien, il est parti avec Dizzy Gillespie en tournée, parce qu'il considérait que eh bien, chez Miles, il avait sa place, certes, mais que c'était quand même Gillespie qui, à l'époque, dominait la tête et des épaules dans tout ce petit monde, on va dire, de Bopper. La musique qu'il produisait donc avec Miles Davis était différente et John Lewis avait besoin de retrouver un peu le big band de Gillespie. On va donc se retrouver là pour une première séance. Pas d'enregistrement donc de Gil Evans, c'est ainsi qu'en a décidé le producteur Pete Rugolo. Et il préfère lui les tempos médiums, les arrangements donc de Jerry Mulligan au John Lewis. On va commencer par un premier thème, Jeru. Jeru, c'est en fait le surnom que Miles avait donné à Jerry Mulligan.
Thank you.
Jéru par le Miles Davis Nonet, donc c'est daté du 21 janvier 1949. Jerry Mulligan d'ailleurs va déclarer, après avoir longtemps écouté et réécouté les enregistrements, « Ma bonne fortune m'a permis d'être là et je ne remercierai jamais ma bonne étoile de vraiment avoir pu assister à cet enregistrement. C'était une pure merveille, une pure perfection. » En effet, c'est à la fois très bien interprété, mais aussi très bien enregistré. On va écouter donc une autre composition qu'on a déjà entendue précédemment, mais cette fois-ci avec Miles Davis et Charlie Parker. Mais cette fois-ci, ce sera donc avec son nom net, c'est le célèbre Goldchild. Miles Davis Nonet, donc Goldchild. Alors, le producteur Pete Riegello n'a pas souhaité confier des arrangements à Gil Evans. Il considère que, eh bien, sur les tempos médiums, Miles est beaucoup plus à l'aise. Effectivement, on le ressent ici. C'est la raison pour laquelle il a donc confié, même s'il n'est pas présent, deux arrangements à donc John Lewis. John Lewis va s'y prêter de très bonne grâce. Et même si la musique qu'ils vont produire est bien éloigné du jazz qui se fait actuellement du côté bop, eh bien, on va trouver la meilleure preuve de ce type de distanciation avec la composition de John Lewis Mauve, où Max Roach va jouer avec un énorme drive, certes, tout en gérant malgré tout une paradoxale délicatesse. Yeah. Mauve, donc, par le nonet de Miles Davis. On va terminer cette session avec une dernière compo due également à John Lewis. Ce sera donc un hommage à Bud Powell, un pianiste que tous les beaux-pères chérissaient, évidemment, et notamment John Lewis. Ce sera donc Budo. Voici donc la séance est terminée avec ce Budo donc de John Lewis. C'était donc du 19 janvier. Bien, malgré tout, Miles se doit de poursuivre sa carrière et il va donc tenter de jouer un peu où il le peut. Même s'il a acquis une certaine notoriété, elle est restée limitée quand même un peu auprès des musiciens. Ce n'est pas encore la grande folie auprès du public parce que sa musique est tellement novatrice et nouvelle qu'elle déroute quelque peu. Il va donc réintégrer le Tête de Tad Dameron pour quelques séances d'enregistrement qu'on va retrouver donc retransmises à la radio à partir du Royal Roost. Ça va se passer au mois de février 1949. Le groupe est composé donc de Miles à la trompette, Kewinding trombone, Saïb Shihab à l'alto, Benjamin Lundy au ténor, Cecil Payne baryton, Tad Dameron évidemment piano, John Collins à la guitare, Curly Russell à la basse, Kenny Clark à la batterie. Et Tad Dameron a souhaité cette fois-ci rajouter un joueur de conga, Carlos Vidal. On va donc, terminer l'émission avec ce premier thème donc enregistré par ce groupe-là. Et il faut dire que Miles est venu donc dans le tintet de Tad Dameron pour remplacer tout simplement Fats Navarro. On va écouter donc le thème Webb's Delight.